La vengeance de la momie, écrit par Evelyn Brizou-Pellon. Chapitre 1, les pilleurs de tombeaux. Les ombres se glissaient dans la nuit. Nul bruit. Quatre grandes ombres et une petite qui suivaient. De temps en temps, une grande ombre se retournait et bousculait la petite en l'insultant, en menaçant. Mais la petite ombre s'accrochait, ne voulait pas renoncer. Kay avait fermement décidé que ce métier serait le sien et il n'en démordrait pas. « Va-t'en, Kay, retourne chez toi. Tu es trop jeune. Pilleur de tombeau, c'est un métier d'homme. » Kay se laissait tomber à terre sous les gifles, puis il rampait sournoisement et reprenait sa place à la fin de la file. L'homme, devant lui, se découragea. Et surtout, il ne voulait pas faire de bruit, pour que personne ne les entende. S'il frappait trop fort le garçon, celui-ci pouvait se mettre à crier, et leur expédition serait fichue. Pourtant, il n'aurait pas raison de Kay. Kay était orphelin, et il avait appris depuis longtemps que s'il voulait survivre, il devait se cramponner, ne jamais se laisser abattre, ni dicter sa conduite. Ils s'arrêtèrent enfin. Sur le sol, apparaissait un espace plus sombre, en creux, bordé d'une longue pierre. Les quatre hommes se mirent aussitôt à genoux pour dégager le sable à grands coups de bras. Kay s'assit et les regarda faire. Bientôt apparut un escalier. Deux marches, trois marches, dix. Une porte qui s'ouvrait dans un mur, sous le sable du désert. Pour les pilleurs de tombes, une porte n'est pas un problème. Le problème, c'est après, quand on est dans le couloir sombre. Ils étaient maintenant descendus profondément sous la terre. On n'y voyait rien. Les hommes allumèrent des torches. Un long moment, ils demeurèrent dans l'ombre, sans bouger, à réfléchir en regardant autour d'eux. Surtout, il ne fallait pas se perdre dans le labyrinthe des galeries sans issue et trouver avant les premières lueurs du jour le chemin du tombeau souterrain. Enfin, le plus vieux fit un signe. Se glissant dans le couloir de gauche, il monta les quelques marches, se pencha, haussa sa torche, chercha les indices qui les guideraient. Il parut satisfait. Sans dire un mot, les quatre hommes avancèrent prudemment, se courbant jusqu'à ramper dans les endroits difficiles. Kay suivit, en silence, le cœur battant, espérant se faire oublier. Quand il se redressa derrière les hommes, il n'en crut pas ses yeux. Il venait d'arriver dans une vaste pièce ornée de peintures immenses, représentant de très grands personnages, des animaux sacrés, des scènes étranges. Au fond, le mur tout entier était couvert de petits dessins que Kay croyait être de l'écriture, mais qu'il n'aurait su déchiffrer. Au centre de ce mur, on voyait, entre deux statues de taille humaine, un espace lisse. Les quatre hommes se mirent à frapper cet endroit dégagé avec de lourds marteaux de bois. Le mur se fissura. Peu à peu, un trou s'ouvrit dans la paroi, donnant accès à une salle plus petite, à l'entrée de laquelle veillait une statue du dieu chacal Anubis. De son socle de pierre, il semblait surveiller les intrus d'un œil sévère. Kay détourna les yeux. Soudain, voilà qu'il se sentait un peu coupable. Mais de quoi? Tous ses trésors dormaient là depuis l'éternité. Ils ne servaient à rien ni à personne. Ils ne faisaient aucun mal en se les appropriant. Son raisonnement le rassura. Derrière le chacal de pierre qui gardait la tombe, il apercevait des statuettes d'or ou de bronze. Des coupes d'argent, des coffrets, de grands paniers qui avaient sans doute été pleins jadis, mais ne contenaient plus aujourd'hui que poussière, des vases d'albâtre dans une armoire, ceux qui avaient recueilli les entrailles du mort, des bâtons gravés, des dagues à lames d'or, et même un chasse-mouche en plumes d'autruche. Sur la droite, en retrait, on devinait la chambre funéraire et son sarcophage. Aussitôt, les quatre hommes déplièrent des sacs qu'ils portaient sous le bras, et commencèrent à y entasser les objets les plus précieux. Kay voulait faire comme eux. Il fut brutalement repoussé. « Si vous ne me laissez rien prendre, menaça-t-il, je vous dénoncerai. » Les quatre perdus le fixèrent d'un regard mauvais, si mauvais que le garçon recula avec prudence. Ces hommes pouvaient tout aussi bien le tuer sur place, et nul jamais n'en saurait rien. Le plus vieux eut un geste d'apaisement. « Si tu nous aides, dit-il, tu auras ta part. » Kay respira mieux. « Nous ne pouvons pas tout emporter dans des sacs, » continua l'homme. « Va très vite couper des papyrus pour faire une nacelle et ramène-la ici le plus rapidement possible. » Comme Kay hésitait, on lui mit une torche dans la main et on le poussa violemment dehors. « Dépêche-toi, c'est très urgent, et sois de retour avant le matin. Il faudra emporter le butin pendant qu'il fait encore nuit. Comment est-ce que je vous retrouverai ?»« Es-tu assez sot pour n'avoir pas bien vu le chemin ? Cesse de perdre du temps. » Que faire ? La mort dans l'âme, Kay se résolut à obéir. Il voyait bien que sa part du butin était à cette condition. Seul dans le couloir sombre, il se mit à réfléchir. Sortir était facile. Il suffisait de suivre la pente montante, toujours. Mais quand il serait en haut, il pouvait se tromper pour revenir, car il y avait plusieurs couloirs descendants. Il déchira du bas de son pagne une petite bande qu'il laissa tomber à l'entrée de la galerie menant à la tombe. Dehors, il faisait doux. La nuit était claire et pleine d'étoiles. Kay cacha sa torche sous des pierres et courut vers le Nil. Dans les marécages qui bordaient le fleuve, il savait où trouver les plus beaux papyrus, solides, ceux avec lesquels on fabriquait les bateaux légers. Du couteau de pierre tranchant qu'il portait toujours à la ceinture, il en coupa de grandes brassilles, puis entreprit de les assembler adroitement en les liant, de les réunir à chaque bout en un faisceau serré. Instinctivement, il construisait une barque. C'est tout ce qu'il savait faire. La lune était pleine et lui facilitait la tâche. Mais bien qu'il ne cherchât pas à faire un grand bateau, l'opération lui prit tout de même une partie de la nuit. Enfin, il revint le plus vite possible vers l'entrée du tombeau en traînant la longue nacelle derrière lui, reprit sa torche et pénétra de nouveau dans le couloir sombre. À la lumière vacillante, les fortes pierres des murs renvoyaient des éclats inquiétants. Il ne fallait pas y penser, il fallait avancer. Sur les dalles du sol, la bande de tissage était toujours là. Elle le guida dans la bonne direction. Franchir le passage le plus étroit du boyau lui donna un peu de mal, à cause de sa barque qui frottait partout. Mais il arriva sans encombre à l'entrée de la salle du trésor. Il resta tout d'abord stupéfait. Puis la colère l'envahit. Les pilleurs étaient partis, emportant tout. Les vases, les statuettes, les dagues, tout. Tout, sauf le sarcophage qui était ouvert. Et la statue du chacal Anubis qu'ils avaient fait tomber de son socle. Kay faillit en hurler de rage. Le sentiment de l'injustice dont il était victime lui brouillait la vue. L'injustice, c'était ce qu'il supportait le moins. Il serra les poings. Enfin, rassemblant ses esprits, il se dit que le jour allait bientôt se lever et qu'au moins il pourrait emporter la statue de pierre du dieu chacal. Il se baissa pour la soulever. Hélas, il ne put la bouger. Les pilleurs de tombeau l'avaient laissée simplement parce qu'elle était trop lourde et sans grande valeur. Kay appuya son front contre la tête du chacal qui était tombé et ne se relèverait jamais et se mit à pleurer. Ses larmes le soulagèrent. Ses yeux revinrent vers le sarcophage, dont le couvercle gisait à terre. Ce couvercle représentait un homme allongé, tenant entre ses mains, croisé sur sa poitrine, un sceptre et un fouet. Le sarcophage était trop lourd, il le savait. Inutile de penser le sortir d'ici. Il s'approcha pour regarder dedans. Évidemment, il était vide. Toutes les offrandes, les amulettes, tous les bijoux avaient été enlevés, les plaques d'or et les pierres tapissant l'intérieur arrachées. Soudain, Kay aperçut quelque chose de blanc derrière le sarcophage. Il en fit le tour. C'était la momie, face contre terre, serrée dans ses bandelettes. On avait ôté ses bijoux et ses ornements de cou, et on l'avait abandonnée là, comme un vieux chiffon. Le cœur battant d'appréhension, il la retourna du bout du pied. Le visage était découvert. Il lui parut accusateur, comme si le mort le rendait responsable de ce qui était arrivé. Un peu impressionné, Kay replaça soigneusement sur la poitrine de la momie le collier de fleurs de lotus tout desséché. Voilà que soudain, il ne se sentait pas tranquille. Une sorte de crainte indéfinissable l'empêchait de partir en laissant la momie dans cette position inconfortable et peu digne. Au moins, se devait-il de la remettre dans son sarcophage. Non sans quelques inquiétudes, il se décida enfin à la soulever par les épaules. Il fut surpris. Elle n'était vraiment pas très lourde. Cette constatation toute simple, qui ramenait la momie au modeste rang d'objet, le rassura totalement. La pensée lui vint alors qu'elle paraissait faire juste la même longueur que la nacelle, qu'il avait préparée juste la même largeur. Presque sans le vouloir, au lieu de coucher la momie dans son sarcophage, il la glissa dans la barque de papyrus. Bien, il emporterait au moins quelque chose. Tirant son fardeau derrière lui, il se dirigea vers la sortie. Au moment de passer le mur défoncé, il eut un dernier regard pour la statue du dieu chacal, toujours gisant sur le flanc. Il eut pitié du dieu. Il se pencha, le prit par le cou, et, rassemblant ses forces, dans un grand effort, parvint à la redresser. La statue avait été abîmée. Sur le côté de la tête qui avait touché le sol, un grand morceau de pierre s'était détaché. Kay n'y prêta aucune attention. Il était pressé par le temps. Il saisit le bateau de roseaux et quitta la tombe.